السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، nous commençons la lecture et l'étude d'un grand livre écrit par un auteur illustre et célèbre, le grand savant Cheikh al-Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي qui est né en 1115 après l'Égypte et décédé en 1206. Et ce grand savant de l'islam, Cheikh al-Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, était un grand conseiller de la communauté, un grand savant qui avait le souci de l'ensemble des membres de la communauté, à un point tel qu'il a étudié, mémorisé, appliqué, puis il s'est attaché grandement à la propagation de la science jusqu'à se spécialiser dans la purification de la croyance et l'enseignement du tawhid, cette grande sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a tous fait exister et créer. Il a beaucoup écrit dans ce sujet, des livres, et a particulièrement axé son prêche donc sur la purification de la croyance. Et sans aucun doute, le meilleur de ses livres dans le domaine, et le plus célèbre, est Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi ala al-abid. Mais il a beaucoup d'autres livres et ouvrages dans le domaine, comme Thalathatul Usul. Et ce livre, dont nous commençons l'étude ce soir, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles. Les quatre règles est un ouvrage qui est court, mais hautement et grandement bénéfique. Celui qui étudie ce livre sera clairvoyant quant à la distinction entre la voie des monothéistes et la voie des polythéistes. Il ne subsistera plus aucun doute quant à la droiture, à la justice, au caractère fiable et sûr de la voie du monothéiste, et le contraire pour la voie du polythéisme. Et très nombreux sont les savants qui ont fait les éloges de cet ouvrage. Le musulman, et particulièrement l'étudiant en sciences, ne doit pas se passer de la lecture et l'étude de cet ouvrage. L'auteur, rahimahullah ta'ala, commence son livre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est ce qu'on appelle El Basmala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé son épître par El Basmala pour prendre exemple sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, comme vous le savez tous, l'ensemble des sourates du Coran commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, excepté une seule. Laquelle? Sourate At-Tawbah. Barakallahu fik. Tu n'étais pas là hier. Ou tu étais là, mais je ne t'avais pas vu. Tu étais là? Comment est-ce que je t'appelle? Qais. Hafidhakallah Qais. Donc, excepté Sourate At-Tawbah, Sourate Bara'a. C'est la combienième sourate du Coran?
Imran, Nuh. Où est mon sahab Moussa? Moussa, pourquoi t'es pas là avec tes sahabs? T'es resté à ta place hier. Cette place, elle est meilleure. Moussa, tu peux aider tes frères ou pas? C'est la sourate numéro combien? Sourate Tauba. La neuvième sourate. Masha'Allah, barakallahu fik. C'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a donc mentionné la basmala pour prendre exemple sur le livre d'Allah, sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui lorsqu'il dictait ses écrits au roi, au gouverneur pour les inviter à l'islam, il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ou comme dans Sulh al-Hudaybiyyah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad ibn Abdillah Rasulillah. Ou comme dans sa lettre à Hirakl, Azim al-Rum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad ar-Rasulillah ila Hirakl, Azim al-Rum, Aslim taslam, al-Hadith. Aussi, pour rechercher la bénédiction par le commencement, à travers la citation et la mention des noms d'Allah Azza wa Jal, toute la baraka vient par le fait de compter sur Allah Azza wa Jal et de le mentionner dans toutes nos affaires. Puis il nous dit, As'alullah al-Karim, Rabb al-Arj al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بلوت رحمه الله تعالى nous dit, je demande à Allah, le noble, le seigneur du trône immense, de te rapprocher de lui et de t'aimer dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de te joindre au nombre de ceux qui, lorsqu'on leur donne, sont reconnaissants. Lorsqu'on les éprouve, sont endurants. Et lorsqu'ils commettent un péché, repentant, ils demandent pardon. Car ces trois points-là sont les signes de la réussite. Les signes du bonheur. L'auteur, à son habitude, commence son ouvrage par des invocations. En faveur de toute personne qui lira ce livre, qui l'étudiera ou qui l'écoutera. Je demande à Allah, Al-Karim. Al-Karim fait partie des noms d'Allah. Et que signifie Al-Karim? C'est celui qui a l'attribut de Al-Karam. Et Al-Karam, c'est Ijtima' Sifat Al-Kamal. Al-Karam, c'est l'union des caractéristiques de perfection. Al-Karim est donc le détenteur des attributs de perfection, des attributs de bien. Le seigneur du trône immense. Ici, il nous mentionne la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Allah, c'est le créateur, c'est le maître de toutes choses, le propriétaire et l'administrateur de tout ce qui se passe et a lieu dans cet univers, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, ou encore dans les profondeurs des mers. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui administre cet univers. Mais l'auteur a spécifié le trône, pourquoi? Parce que Al-Arsh, c'est la créature la plus élevée, la créature la plus grande, la plus vaste, et la créature la plus lourde. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, mentionnait particulièrement le trône d'Allah Azza wa Jal d'entre ses créatures, parfois lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Dua al-Karb, et comme dans certaines invocations, lorsqu'il priait la nuit, dans la dua de la tristesse et de l'affliction, La ilaha illallah, al-azim al-halim, La ilaha illallah, Rabbul arsh, al-karim, La ilaha illallah, Rabbul samawati wal-arb, wa Rabbul arb, wa Rabbul arsh al-azim. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam mentionnait cette grande créature qui est le trône d'Allah Azza wa Jal. Et la grandeur de la créature est un indicateur explicite de la grandeur du créateur. Donc lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, le fait de te rappeler la grandeur de ces créatures, ça t'amène à te souvenir de la grandeur de son Créateur. Puis, il demande trois choses pour toi, ô toi qui recherches la science, ô toi qui recherches la vérité. Chacune de ces choses, ou plutôt il demande, on peut dire cinq choses de manière détaillée. Chacune de ces choses-là est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. La première, c'est qu'il soit ton allié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Que veut dire ayatawallak fid dunya? Le fait d'avoir Allah Azza wa Jal en allié dans ce bas monde, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal va te donner la réussite, l'aide, l'assistance, la guider, la préservation. Naam. Il va te rapprocher de lui, t'aimer, donc te donner tout le bien. Ça, c'est dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, ça signifie qu'il te préserve de l'enfer et qu'il te guide et t'accorde le paradis et tout ce qu'il contient. Et parmi les noms d'Allah, El-Wali. Et El-Wali signifie El-Mutasarrif fi khalqihi. C'est celui qui administre et gère l'ensemble des affaires de ses serviteurs. Il y a un point qui est général, ça concerne toutes les créatures. Et il y a un point qui est spécifique, ça concerne que les croyants, en leur donnant la foi et en les guidant au bien. Puis, il demande à Allah Azza wa Jal de te joindre au nombre de ceux qui, lorsqu'il leur donne, se montrent reconnaissants. Un shukr est une grande adoration. Un point tel que certains savants ont dit l'islam se divise en deux. La moitié, c'est la reconnaissance. La moitié, c'est l'endurance. Et ash-shukr signifie le fait de faire apparaître les bienfaits d'Allah. Le fait de reconnaître et de faire apparaître les bienfaits d'Allah. Et cela avec trois outils. Premièrement, avec le cœur, en reconnaissant que ça émane d'Allah. Donc, tu augmentes ton amour pour lui. Deuxièmement, avec la langue. Tu fais les éloges d'Allah et tu mentionnes ses bienfaits. Troisièmement, avec les membres. Tu utilises les bienfaits d'Allah à la recherche de son agrément et pour te rapprocher de lui. Donc, la reconnaissance, elle a lieu avec trois outils. N'est-ce pas? Quels sont ces trois outils? Quand tu es reconnaissant avec Allah, c'est avec trois outils. Lesquels? Le cœur. Le deuxième, c'est quoi? Al-shukr a lieu avec trois outils. Premièrement, le cœur. Deuxièmement, qui répond? La langue. Barakallahu fik. Comment est-ce que je t'appelle? Issa. Troisièmement, les membres, les actes, c'est-à-dire les membres. Barakallahu fikum. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a défini al-shukr dans son livre Madarij al-Salikin en disant: Zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdi thana'an. C'est le fait de faire apparaître les bienfaits d'Allah sur la langue du serviteur en faisant les éloges d'Allah. وَاَعْتِرَافًا et en reconnaissant que ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah. وَعَلَى قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً avec son cœur en témoignant du bienfait et en aimant davantage Allah. وَعَلَى جَوَارِحِهِ إِنْقِيَادًا وَطَاعَةً et avec les membres en se soumettant davantage à Allah et en lui obéissant. Ça fait partie des meilleures définitions de la reconnaissance. Et si on médite le Coran et la sunna, on trouvera ces trois outils. Par exemple, dans sourate An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans qu'il n'émane d'Allah. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'i'tiraf. C'est la reconnaissance, avec la langue, avec le cœur, que tout bienfait vient d'Allah. Si tu lis dans sourate Al-Duha, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ça, c'est avec la langue. Et si tu lis, I'amalu ala Daoud ashukra, agissez, ô suiveurs de Daoud, ou famille de Daoud, avec reconnaissance. Wa qalilu min ibadi ashakur, et peu parmi les mes serviteurs sont très reconnaissants. Ou dans le hadith, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Une nuit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plu. Et le lendemain, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Allah a dit, ce matin, certains de mes serviteurs se sont réveillés ou sont arrivés au matin en ayant foi en moi, et d'autres en mécroyant ou en étant ingrats. Amma alladhi qala mutirna bi fadlillah fa shakir mu'minun bi. Quant à celui qui a dit, il a plu par la grâce d'Allah, c'est celui qui a cru en moi. Lui, il a été reconnaissant. Quant à celui qui a dit, il a plu suite à la position des constellations et des étoiles, voici celui qui a mécru en moi et qui a été croyant à la position des constellations ou bien des étoiles. Ça, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas simplement de dire Alhamdulillah. Le prophète, alayhi salat wa salam, se levait la nuit et priait jusqu'à ce que ses talons s'effritent. Et lorsqu'on lui disait, pourquoi est-ce que tu fais cela alors qu'on t'a pardonné tes péchés passés? Il répondait, afala akunu abdan shakura. Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Comment est-ce qu'il traduisait cette reconnaissance? Avec la prière. Donc la reconnaissance, c'est pas que sur la langue. À chaque fois qu'Allah te donne, tu dois dire, c'est grâce à Allah, pas grâce à moi. À chaque fois qu'Allah te donne, tu dois faire ses éloges. À chaque fois qu'Allah te donne, tu dois l'aimer davantage. Parce que tout naturellement, le cœur penche vers celui qui lui donne. À chaque fois qu'Allah te donne, tu dois l'adorer encore plus. Et là, tu seras un serviteur reconnaissant. Quant à celui qui dit Alhamdulillah avec sa langue, mais qui utilise les bienfaits d'Allah pour lui désobéir, c'est le pire des serviteurs. Il utilise le bienfait d'Allah Azzawajal pour lui désobéir, alors qu'il ne lui a créé que pour qu'il l'utilise pour se rapprocher de lui. C'est le pire des serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Deuxièmement, وَإِذَا بْتُولِيَ صَبَا. Lorsqu'il est éprouvé, il se montre endurant. L'endurance, c'est le fait d'emprisonner son état face à la révolte, lors du décret d'Allah Azzawajal. Tu emprisonnes ton âme, ton nefs, ta personne, face au fait de se révolter lors du décret d'Allah. Deuxièmement, tu l'emprisonnes dans la constance de l'adoration d'Allah et la régularité, dans l'obéissance. Et troisièmement, face à la tentation et au fait de glisser dans le péché. Ainsi, l'endurance a lieu dans trois domaines. Dans l'obéissance d'Allah, face à la désobéissance d'Allah, et lors du décret douloureux d'Allah. Est-ce que c'est compris? On doit se montrer endurant dans trois domaines. Lesquels? Qui répond à cette question? Tu dois être endurant dans trois domaines. Lesquels? Qui répond? Dans la salat? La salat, ça entre dans quoi? C'est une obéissance ou c'est une désobéissance? C'est une obéissance. Donc tu dois être endurant dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah. D'accord? Dans l'obéissance d'Allah. Qui s'est permis de parler sans lever la main? Toi? On commence pas seul. Lorsque tu veux prendre la parole, tu lèves la main. Si je veux te l'accorder, je te l'accorde. Sinon, tu patientes jusqu'à la fin. T'as compris? Barakallah fik. Donc, on doit être endurant dans trois domaines. Lesquels? Le premier, c'est l'obéissance d'Allah. Quel est le deuxième? Le deuxième, c'est face à la désobéissance d'Allah. Ça veut dire quoi être endurant dans l'obéissance d'Allah? Ça veut dire être régulier, être constant. Tous les jours, on doit prier. Naam. Tous les jours, on doit faire des sadaqat. N'est-ce pas? Quand le mois de Ramadan arrive, on doit faire quoi? On doit jeûner. Quand le hajj arrive, on doit faire le pèlerinage. Et ainsi de suite. Quand on arrive au matin, on doit être bienfaisant envers nos parents. Quand on arrive au soir, on doit être bienfaisant envers nos parents. Dans l'après-midi, on doit être bienfaisant envers nos parents. N'est-ce pas? Donc, il faut rester constant, régulier. Ça, c'est le « as-sabr ala ta'atillah ». Deuxièmement, « as-sabr an ma'siyatillah ». L'endurance face à la désobéissance. « Inna nafsa la ammaratum bisou ». L'âme, elle est incitatrice au mal. Il y a des tentations. Il y a des tentations chez toi lorsque tu es devant l'ordinateur. Il y a des tentations dehors lorsque tu vois des gens passer. Il y a des tentations lorsque tu travailles. Il y a des tentations lorsque tu es seul, lorsque tu es en groupe, lorsque tu es avec tes amis et lorsqu'on t'engraine. Et lorsque le shaitan te dit, personne ne te voit, t'inquiète pas. Il y a des tentations. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te retenir. Tu dois te contenter, tu dois te souvenir qu'Allah te voit et te surveille pour pas désobéir. Comment est-ce qu'on appelle cette endurance-là? L'endurance face à la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Et le troisième point dans lequel on doit se montrer endurant, c'est lors des épreuves. L'épreuve par quoi, par exemple? Le décès d'un proche aimé. L'épreuve de la pauvreté. L'épreuve de la faim, l'épreuve des dettes, l'épreuve de la calomnie, l'épreuve et ainsi de suite, hein, de la douleur. Tu dois te montrer endurant. L'épreuve de la propagation des gens de l'innovation, l'épreuve de voir les croyants se faire opprimer, et ainsi de suite. Tu dois te montrer endurant dans ces trois domaines-là. Allah Azza wa Jal nous a ordonné l'endurance. Fasbir li hukmi rabbik. Endure face au décret ou au jugement de ton Seigneur. Le décret religieux et le décret universel s'englobe les trois types d'endurance. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit: "Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khayr. Wa laysa dhaka li ahad illa lil-mu'min." Dans le hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous dit, comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est pour lui un bien, et cela n'est valable que pour le croyant. Si un bien le touche, il se montre reconnaissant, cela est un bien pour lui. Et si un mal le touche, il se montre endurant, et cela est un bien pour lui. Donc le musulman, dans chaque situation, il gagne. Pourquoi? Quand un bien le touche, il sait que ça vient d'Allah, il remercie Allah, il est dans le bien. Quand un mal le touche, il se montre endurant, et ça c'est également un bien pour lui. Le troisième domaine, ou la troisième doua de l'auteur, qui est la cinquième de manière détaillée, وَإِذَا أَذْنَبَ السَّرْفَ. Lorsqu'il commet un péché, il demande pardon. الْإِسْتِغْفَارُ, c'est طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ. الْإِسْتِغْفَارُ, c'est la demande de pardon. Et lorsque tu dis astaghfirullah, tu reconnais que tu es un faible serviteur d'Allah, sujet à l'erreur. Tu n'es pas parfait. Et tu reconnais que tu as commis une faute, tu as désobéi à Allah, et tu reconnais que tu as fait un péché. Alors tu vas implorer le pardon d'Allah en disant astaghfirullah ou d'autres formulations. Et cette grande doua, elle renferme des sens sublimes, des sens profonds, des sens dont aucun d'entre nous, ni de nos proches, ne peuvent se passer. Premièrement, quand tu dis « Astaghfirullah », ça veut dire « Oh Allah, usturni. Oh Allah, couvre ma faute. J'ai fait un péché, ça me salit, ça me ternit et ça m'avilit. Parce que tu es mon maître, mon Seigneur. Tu m'as créé pour que je t'adore. Et avec ça, je suis illuminé et honoré. mais moi je te désobéis, je me suis sali et avili. Alors, ya Allah, cache ma faute afin de ne pas m'humilier au sein de tes créatures. Quand tu dis astaghfirullah, premièrement, oh Allah, couvre-moi, cache ma faute et mon péché, afin que je ne sois pas humilié et avili. Deuxièmement, quand tu dis astaghfirullah, ça comprend le fait qu'Allah efface ta faute. On est lourd par nos péchés. On est accablé par nos péchés. On souffre de par les péchés qu'on porte sur nos épaules. Et on peine à avancer et à acheminer vers Allah et la demeure de l'au-delà. Elles sont plus lourdes. Elles sont plus lourdes sur nos dos, sur notre dos, que le fait de porter une montagne et de la tirer. Alors tu demandes à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, astaghfirullah, efface-moi ces péchés, allège mon dos. Fais en sorte que je ne trouve plus dans les feuillets, écrits par les anges qui m'accompagnent de jour comme de nuit, afin que je ne trouve pas cela dans les feuillets de mes œuvres le jour de ta rencontre. Astaghfirullah, efface mes péchés, efface mes fautes. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ikhwat al-iman, lorsque tu dis astaghfirullah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve des conséquences dévastatrices des péchés. Parce que pour chaque péché qu'on commet, nous, on avance, mais en réalité, il y a des conséquences. Nous, on marche, mais en réalité, il y a des grands bienfaits, des grandes bénédictions qui nous abandonnent et nous lâchent. Lorsque tu dis astaghfirullah, tu dis ya Allah, pour chaque péché que je commets, il y a des conséquences gravissimes et dévastatrices. Je te demande alors, ya Allah, de ne pas me toucher des conséquences des péchés, bien que je le mérite. Mais toi, tu es le pardonneur, celui qui efface les fautes et les péchés et qui prémunit des conséquences dévastatrices du péché. Ainsi, on comprend la grandeur de cette dua faite par l'auteur en faveur de nos faibles personnes. وَإِذَا أَذْنَبَ السَّرْفَرْ. Et lorsqu'il commet un péché, il demande pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Rapporté par At-Tirmidhi selon Anas ibn Malik. Il n'y a rien qui soit trop lourd pour être pardonné par Allah. Rien qui soit trop nombreux pour être effacé par Allah. Mais la clé de la réussite est de savoir que tu es un Seigneur pardonneur, miséricordieux, qui accueille la demande de pardon, qui accueille le repentir et s'en réjouit. Lorsque tu fais une faute, Allah a le choix entre te châtier et te pardonner. Et il nous a informé que sa miséricorde a devancé sa colère. Alors, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Toi qui as été alourdi par les fautes et les péchés, toi qui penses qu'il n'y a pas de remède à cette faute et cette dépendance à ce péché, sache que tu es un Seigneur. Il est parfait. Il est miséricordieux. Il est pardonneur. Si tu reviens à lui, il te pardonne, il t'accepte. Si tu as commis tous les péchés que la terre peut supporter et que tu reviens une seule fois à lui et tu dis, oh mon Seigneur, pardonne-moi, je reviens à toi. Wallahi l'azim, Allah t'accepte. Il te lave de tes péchés. Il t'efface, il te donne un nouveau livre. Il t'accorde, il te rapproche de lui. Plus étonnant que tout ça, il t'aime. Allahu Akbar. Il te donne son amour. Alors qu'il t'avait ordonné de ne pas lui désobéir. Mais tu lui as désobéi. Mais le jour où il a créé les cieux et la terre, il a ouvert la porte du repentir. Et elle ne se refermera jamais. Si ce n'est le jour où le soleil se lèvera de son couchant. Ainsi, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur plein d'espoir et sache qu'il n'y a rien de trop lourd pour qu'Allah te le pardonne, rien de trop grave pour qu'Allah azza wa jal le pardonne. Le tout est d'avoir la certitude et la confiance en Allah. Le tout est de faire le pas vers Allah azza wa jal et de ne jamais accepter les insufflations sataniques du shaitan qui te fait croire et penser que tu ne pourras jamais t'en sortir et que tu t'es déjà repenti et que tu as recommencé. Non, ne l'écoute pas. Reviens vers Allah, celui qui t'a appelé dans le Coran et qui t'a dit dans Sourate Az-Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا. Dis aux vous mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui, le grand pardonneur, le très miséricordieux. Le fils de Adam n'est pas infaillible, mais il doit constamment revenir vers Allah Azza wa Jal et lui demander pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'un grand hadith dans lequel Allah Azza wa Jal dit le fils de Adam a commis un péché. Puis il a dit Allahumma ghfirli wa oh mon Seigneur pardonne oh Allah pardonne-moi. Allah dit alors mon serviteur a commis un péché et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui saisissait pour les péchés. Alors j'ai pardonné à mon serviteur. Puis il a recommencé un autre péché. Il a dit Rabbi ghfirli. Oh mon Seigneur, pardonne-moi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, mon serviteur a commis un péché. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui châtiait ou saisissait pour les péchés. Je lui ai alors encore pardonné. Une troisième fois, il commet un péché. Puis il dit, Rabbi firli, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Allah tabaraka wa ta'ala dit alors, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui saisissait pour les péchés. Je lui ai alors pardonné. Qu'il fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné. Allahu Akbar. On commet des péchés, Allah Azza wa Jalla ne nous abandonne pas. Allahu Akbar. On commet des péchés, Allah se fait aimer de nous en nous rajoutant des bienfaits. Allahu Akbar. On commet des péchés, notre Seigneur nous fait peur afin qu'on se sauve de l'enfer. Que mon serviteur fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire, tant que tu es dans cet état-là, tu as peur pour tes péchés. Et tu espères malgré tout le pardon d'Allah et tu reviens vers Allah. Et tu fais des efforts, tu glisses, tu te relèves, tu bats. Tu te bats contre ton âme, tu te bats contre le shaitan. Eh bien, sache que tu trouveras un Seigneur, pardonneur et miséricordieux. C'est ça le sens du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, l'auteur rahimahullah ta'ala nous a invités à ces trois grandes caractéristiques. La reconnaissance, l'endurance et la demande de pardon. Et il nous dit, c'est le signe de la réussite. C'est-à-dire, si tu vois un serviteur, qui régule, il est toujours dans la reconnaissance d'Allah. Il est toujours dans l'endurance, il est toujours dans la demande de pardon. Sache que c'est un signe qu'il va réussir. Parce que le serviteur, en réalité, il ne sort pas de trois états. Méditez votre situation. Soit vous êtes dans un bienfait d'Allah, l'obligation, c'est quoi? D'être reconnaissant. Soit vous êtes dans une épreuve, l'obligation, c'est d'être endurant. Soit vous êtes dans un péché, l'obligation, soit on est dans un péché, l'obligation, c'est de demander pardon à Allah. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wa salam, dans une assise, on lui comptait plus de 100 fois qu'il demandait pardon à Allah. Il a rempli sa vie d'obéissance à Allah. Et pourtant, il a conclu sa noble vie par la demande de pardon. Comment est-ce qu'on pourrait se passer, nous, de la demande de pardon avec tous nos péchés? Aisha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors qu'il avait sa tête sur moi. Et ses dernières paroles furent Rabbi ighfir warham wa alhiqni fi ar-rafiq al-a'la. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi miséricorde. et élève-moi à la plus haute des compagnies. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de nous joindre au nombre des serviteurs reconnaissants lorsqu'il nous donne, endurants lorsqu'on nous éprouve et repentants lorsqu'on pêche. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Sache qu'Allah t'oriente dans son obéissance, que al-hanifiyya c'est la voie d'Ibrahim, qui consiste à adorer Allah seul d'un culte sincère. Sache, c'est un verbe à l'impératif qu'on utilise pour attirer l'attention de l'interlocuteur. C'est comme si on te disait, ô toi, sois concentré et tout ouïe, parce que ce qu'on va te dire ici a la plus haute importance. Comme dans le Coran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée sauf Allah. Comme dans le Coran, وَعْلَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. Sachez que vous serez amenés à le rencontrer. Donc quand on dit sache, c'est que ce qui va suivre a la plus haute importance, soit concentré. Qu'Allah t'oriente dans son obéissance, c'est-à-dire suis l'obéissance, الرشد, c'est ta'atullah wa rasuli. C'est le fait d'obéir à Allah et à son messager. Encore une doua de l'auteur. Pour nous dire quoi? Que Al-Hanifiyya, c'est la voie d'Ibrahim. Qu'est-ce que Al-Hanifiyya? Et qui est Ibrahim alayhi salam? Al-Hanifiyya, ça vient du mot Al-Hanaf. Ou bien Al-Hinf. Qui signifie Al-Iqbal ou Ilashay. Al-Hanif, c'est celui qui se dirige vers une chose. Par conséquent, s'éloigne d'une autre. Al-Hanifiyya en islam. C'est l'iqbal ila Allah wahdahu la sharika la wal mail an kulli man siwa. Al-hanifiyya, al-hanif, c'est le fait de se diriger exclusivement vers Allah, en l'aimant au plus haut point et en se soumettant à lui, tout en s'éloignant de tout autre que Allah. Donc al-hanifiyya en réalité c'est quoi? C'est l'islam. Al-hanifiyya en réalité c'est quoi? C'est l'ikhlas, c'est tawhid. Al-hanifiyya c'est l'islam en réalité. C'est la soumission à Allah d'un culte sincère. C'est le fait de se diriger avec pas vers lui, exclusivement à se détourner de tout autre que lui. C'est ça, al-hanifiyya. Et al-hanifiyya, l'auteur l'a défini en disant "Ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din." C'est le fait d'adorer Allah exclusivement d'un culte sincère. La sincérité, c'est quoi? C'est le fait de faire une adoration en visant exclusivement Allah Azza wa Jalla. Tu fais l'adoration. Tu ne cherches pas les éloges des créatures, mais tu veux exclusivement Allah Azza wa Jal. Tu fais l'adoration sans aucune ostentation, sans riya. Et remarquez que l'auteur a spécifié l'adoration par la sincérité. Parce que ça n'est pas toute adoration qui est acceptée chez Allah. La seule adoration qu'Allah accepte, c'est l'adoration qui répond à des conditions. La première étant la sincérité. Si tu adores Allah, mais avec lui un autre, ça, c'est du shirk. Si tu n'adores pas Allah, ça, c'est de l'orgueil. Et si tu adores Allah seul sans associer, ça, c'est le tawhid. Et ça, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal accepte. Et cette voie-là, al-hanifiyya, c'est la voie qu'Allah a ordonnée à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et à la communauté de suivre. Dans le Coran, on nous dit, ثُمَّ أُحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمِ. Puis il t'a été révélé de suivre la voie d'Ibrahim, Hanifan wa makana min al-mushrikin. Hanif, et il n'était pas du nombre des associateurs. Naam. Donc, vu qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de suivre al-Hanifiyya, qui est la voie d'Ibrahim, il t'incombe d'étudier ce qu'est al-Hanifiyya. Parce que tu ne pourras pas suivre al-Hanifiyya, la voie d'Ibrahim, si ce n'est après l'avoir connu, n'est-ce pas? Pour suivre une chose, est-ce que tu peux la suivre si tu ne la connais pas? Non. Qu'est-ce que t'en penses, Moussa? Non plus. On est d'accord ou pas? Tu ne connais pas une chose, est-ce que tu peux la suivre? Non. Donc forcément, il faut faire quoi avant de pouvoir la suivre? Il faut la connaître, Moussa, barakallahu fik. Il faut la connaître. Donc on doit tous savoir ce qu'est al-hanifiyya. Al-hanifiyya, c'est le fait d'adorer Allah avec le tawhid. Et se détourner de tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, tu dois connaître deux choses. La première, c'est l'adoration. La deuxième, c'est l'ikhlas. L'adoration, Ibn Taymiyyah nous dit, « Ya ismun jami'un, li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, min al-aqwali wa al-a'mal al-zahirati wa al-batina. » L'adoration, c'est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, que ce soit apparent ou caché. Après avoir su ce qu'était l'adoration, comme la prière, comme la zakat, comme l'amour, la crainte, l'espoir, tu dois prendre cette adoration et la donner que à Allah et ne jamais la donner à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Si tu fais cela, tu seras sur Al-Hanifiyya. Tu seras sur Al-Hanifiyya. Il reste combien de temps avant l'adhan? 3 minutes? Taïe. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, comme Allah le Très Haut a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comme Allah le Très Haut a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, on nous mentionne la sagesse pour laquelle Allah nous a créé. C'est adorer Allah seul d'un culte sincère. Abdullah ibn Abbas dit, tout ordre de l'adoration dans le Coran, c'est un ordre du tawhid. Donc, à chaque fois qu'on t'ordonne d'adorer Allah, on t'ordonne d'adorer Allah, oui, mais seul sans associé. Seul sans associé. Si c'est la sagesse pour laquelle tu as été créé, c'est forcément obligatoire et tu dois le concrétiser. Tu dois le concrétiser. Ensuite, l'auteur nous dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Dès lors que tu as compris, que tu as su qu'Allah t'a créé que pour son adoration, sache que l'adoration n'est appelée, n'est considérée comme telle que avec le tawhid. Ici, l'auteur émet une nuance entre la simple adoration et le tawhid. L'adoration, c'est général. Le tawhid, c'est spécifique. L'adoration, c'est adorer Allah, mais tu peux adorer avec lui un autre. Mais le tawhid, c'est adorer Allah, et ça exclut tout autre. En somme, le tawhid, c'est adorer Allah seul, sans rien lui associer. كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّ صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. Tout comme la prière n'est appelée prière réellement, véritablement en islam, qu'avec la purification. N'est-ce pas que celui qui prie et qui fait pas le wudu, il n'a pas prié? Est-ce qu'on peut prier sans le wudu? Non. Si quelqu'un prie, il n'a pas le wudu. Est-ce qu'on dit de lui qu'il a prié ou c'est comme s'il n'avait pas prié? C'est comme s'il n'avait pas prié. En apparence, il a prié, mais est-ce qu'Allah l'accepte? Non. Pourquoi? Il manque une des plus grandes conditions, qui est quoi? La purification et le wudu. Ben de la même façon, celui qui fait une adoration, et il manque le tawhid. Est-ce qu'Allah l'accepte? Non. Pourquoi? Parce qu'il manque une condition. Barakallahu fikum. Donc il faut bien comprendre la différence entre l'adoration et le tawhid. Le tawhid, c'est le fait d'avoir comme conviction ferme qu'Allah est unique dans son état. Dans l'ouboubiyya, dans l'ouloubiyya et dans l'asma sifat, comme on l'a vu hier. Quant à celui qui fait des adorations, mais il les fait sans tawhid, que se passera-t-il? Est-ce qu'Allah accepte ou rejette? Allah, il rejette. Allah nous dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On a avancé ce qu'ils ont fait comme eux, et on a rendu tout cela poussière et éparpillé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, Allah dit, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَيْ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِي غَيْرِ تَرَكْتُ وَشِرْكَ. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait un acte d'adoration en m'y assignant un égal ou un associé, je l'abandonne lui et son associé. Hadith Abi Huraira dans le Bukhari et Muslim. Pour finir, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, dès lors que le shirk entre dans l'adoration, il la rend caduque, comme celui qui perd ses ablutions après les avoir prises. Celui qui fait le wudu et ensuite il va aux toilettes. Quand il ressort, est-ce qu'il a encore le wudu ou pas? Non. D'accord. Celui qui adore Allah, puis il adore un autre qu'Allah, est-ce que l'adoration d'Allah, elle reste ou pas? Elle reste pas. Elle est annulée. Elle est caduque. elle n'est plus valable. Si on n'a pas le cran et l'audace et la bêtise et la stupidité d'entrer dans la prière sans le wudu, est-ce qu'on pourra avoir la bêtise d'entrer dans l'adoration d'Allah sans la sincérité? Jamais. Parce que si on fait ça, on fera le pire des péchés, qui s'appelle comment? Le shirk. Le shirk dont Allah Azza wa Jal a parlé dans le Coran. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن همم عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. L'auteur finit l'introduction en disant: maintenant que tu as su que le shirk, s'il entrait dans l'adoration, il la rendait caduque et l'annulait. Tout comme, ou plutôt, et son adepte sera joint au nombre de ceux qui s'éterniseront en enfer. Tu as désormais su que la chose la plus importante qui t'incombait était d'avoir cette connaissance, ou est d'avoir cette connaissance, en espérant qu'Allah te sauve de ces filets qui est le shirk billah, au sujet duquel Allah le Très-Haut a dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Et cela en connaissant quatre règles qu'Allah a mentionnées dans son livre. Al-shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah dans ce qui lui est propre. Le shirk akbar annule l'islam et fait sortir la personne, annule la foi de l'homme et le fait sortir de l'islam. Le shirk asrar annule la perfection de sa foi obligatoire, mais ne le fait pas sortir de l'islam. Celui qui meurt sur le shirk akbar, toutes ses œuvres sont vaines. Il s'éternise en enfer. Il ne peut pas espérer d'entrer au paradis. Donc c'est le pire des péchés. S'il en est ainsi, on doit l'étudier pour qu'Allah Azza wa Jal nous sauve de l'enfer. On doit étudier le shirk pour s'en éloigner. On doit étudier le shirk pour être sur nos gardes. On doit étudier le shirk de peur de le commettre sans le savoir. Et on doit donc avoir peur du shirk comme Ibrahim alayhi salam a eu peur du shirk. Et à invoquer Allah wa junubni wa bani ya an na'bud al-asnam. Oh Allah, éloigne-moi moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Oh mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Et quand une chose devient épidémique et endémique, on en a peur. Comme le Covid, on en a peur, on s'en éloigne, on a peur de tomber dedans. On doit donc avoir peur du shirk. Et comment est-ce qu'on va se préserver du shirk? En étudiant ce qu'est le shirk. En apprenant ce qu'est le tawhid. Et en apprenant son contraire, le shirk. Et cela en étudiant quatre règles qu'a mentionné Allah Azza wa Jal dans le Coran. Et c'est ce qu'on étudiera, Inch'Allah Ta'ala, demain, à quelle heure? À 19h, Inch'Allah Ta'ala, wa sallillahumma wa barik, ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم et félicitations à nos enfants, les hommes du futur, vous qui êtes nombreux, sérieux et assidus au cours. Allah Azza wa Jal vous élève en degré et fasse de vous les imams du tawhid du futur, et qu'il vous préserve vos parents et qu'il les bénisse. Jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.